Bienvenue pour cette soirée qui est la 20e soirée en périphérie du marché de la poésie. Le marché de la poésie, vous le connaissez peut-être de réputation. Depuis 35 ans, il est installé à Paris, place Saint-Sulpice, cette année du 7 au 11 juin. Et il rassemble un peu plus de 500 éditeurs de littérature de création et de poésie. Pour en assurer une audience plus vaste, depuis quelques années, nous avons organisé ce que nous appelons la périphérie du marché, c'est-à-dire une série d'événements en amont et en aval de cette manifestation. Depuis le 10 mai, quasiment chaque soir, nous avons un événement, des événements qui sont des rencontres avec des écrivains, avec des acteurs de la chaîne du livre, de la poésie, essentiellement du livre de création. C'est notre 20e soirée de périphérie sur les 55, c'est très ambitieux comme programme, que nous avons organisé pour cette année 2017 dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle les États généraux de la poésie. Il y a pas mal de temps que dans le milieu des poètes, on se posait des questions sur la nécessité de réfléchir à un état des lieux, des pratiques autour du poème aujourd'hui, puisque depuis quelques deux décennies, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de modifications dans les pratiques d'écriture, dans les pratiques de lecture, dans les manières de gagner les publics, dans les manières de travailler autour du poème. Et cet état des lieux et des pratiques, nous le commençons cette année, on le poursuivra dans les deux ou trois années qui viennent, mais nous mettons un peu le paquet, comme l'on dit cette année, sur cette première session des États généraux de la poésie. Et dans ce cadre-là, nous avons, avec un collectif de travail, établi toute une série de problématiques, de thématiques. Et parmi ces thématiques, il y en a une qui nous tient à cœur, c'est celle de la traduction. Voilà pourquoi ce soir, nous avons proposé à des amis traducteurs de différentes langues, je vais vous les présenter, de répondre à une première question qui sera la seule que je poserai. Ensuite, vous assisterez, je l'espère, à une conversation entre amis. Puisque nous tentons le pari cette année de n'avoir pas le modèle universitaire du modérateur qui, du haut de sa modération, pose des questions tour à tour à l'un puis à l'autre. Non, je pense que nous essaierons ce soir d'être en conversation. Vos questions seront les bienvenues à nos amis qui, dans un premier temps, vont échanger sur quelques aspects de leur travail de traducteur. Merci au Centre National du Livre qui fête son 70e, c'est presque 71e maintenant, hein, c'est, enfin 70. C'est... Merci donc à Vincent Monadet, son président. Merci à Marc Baudot qui m'a aidé à tenir cette soirée, à la mettre en place, à la promouvoir. Donc merci à nos amis du CNL. C'est pas la première fois qu'on se retrouve marché de la poésie CNL, c'est une habitude bien heureuse et j'espère qu'on continuera dans les années, dans les mois à venir. Donc, autour de cette table, sous l'intitulé très très large Poésie et traduction, je vais vous présenter par ordre alphabétique mes notes sur la biographie des auteurs sont ainsi construites. J'ai repris ce que vous trouvez sur le site du marché de la poésie. J'en profite pour vous inciter à le regarder. Il est tout neuf. Nous avons rénové notre site. Il est très beau, je crois, et beaucoup plus riche qu'il ne l'était, puisque nous avons réussi à mettre en archive quasiment les 35 années du marché, avec des photographies, des documents qui sont aujourd'hui très, très précieux. Donc, pour réfléchir sur ces questions, je commencerai donc par Kim Andringa, qui est là juste à ma droite. Donc Kim est chargée de cours de traduction à l'Université de Liège. Elle est traductrice littéraire depuis une quinzaine d'années, notamment de poésie. Elle traduit du français vers le néerlandais, du néerlandais vers le français, mais aussi du frison vers le français. Le frison étant une langue du nord de l'Allemagne.
Non, des Pays-Bas.
Des Pays-Bas. Ah, parce qu'on parle de la Frise. Ah oui, c'est vrai. Nord, exact. Oui. Alors, quelques titres publiés en France, donc des traductions de Lusperte, je crois, apocryphe, en 2005 au Bleu du Ciel, avec Henri Deluy, qui vous connaissez de réputation, hein, fondateur de la revue Action Poétique et éminent traducteur. De mer et d'au-delà, de Ettinga, à l'oreille du loup en 2008. De Van Dixhorn, série au Bleu du Ciel en 2009. De Schippers, table déplacée au Bleu du Ciel en 2012, avec Jean-Michel Espitalier, qui est un poète français avec lequel donc, vous avez établi cette traduction. Et puis en 2015, Il d'Alberts et de Elsmore, Chant d'un cheval qui chavire, en 2015 au Tétralia. Donc une importante œuvre de traduction de poètes contemporains. Contemporains, enfin Lusbert n'est plus de parmi nous, mais disons des poètes de la génération de l'après-guerre hein, jusqu'à aujourd'hui. Nicole Barry, je précise tout de suite qu'elle a longuement présidé la commission ex-traduction littérature en ces lieux mêmes. D'ailleurs, j'ai fait remarquer à nos amis du CNL que tu es toujours présidente sur leur site. Hein. Ils ont du mal à se séparer des gens qui ont accompli leur travail avec plaisir. Donc Nicole Barry est germaniste, traductrice de Herta Müller, de Enzensberger, Christoph Hein, parmi d'autres. Directrice de la bibliothèque allemande aux éditions Métallier, fondatrice directrice de l'association Les Amis du Roi des Aulnes, qui chaque année publie une revue littérale, voilà, et qui organise des rencontres européennes de littérature, lettres d'Europe et d'ailleurs. Dernière traduction publiée, Christoph Hein, Le Noyau Blanc chez Métallier en 2016. Corinna Gebner, vous avez enseigné la littérature française à l'université, puis exercé différentes fonctions dans le public, le privé, avant de devenir traductrice littéraire. Germaniste, vous avez traduit entre autres Stefan Zweig, Klaus Mann, Erich Kästner, Michael Ende et Heinrich Steinfest. Vous avez animé depuis une dizaine d'années une émission de radio consacrée aux littératures germanophones traduites sur fréquence protestante. Vous êtes actuellement présidente de l'Association des traducteurs littéraires de France et vice-présidente aux affaires culturelles de la Société des gens de lettres, la GDL. Vous intervenez en tant que formatrice à l'école de traduction littéraire du CNL et de la SFORED. Alors j'ai cherché, c'est l'Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnel dans les métiers de l'édition. Je précise cela parce que on va parler de poésie et de traduction. La poésie, ça suppose aussi des gestes professionnels, ça suppose aussi des actes sociaux. Et Corinna sera là pour témoigner de cet aspect, non seulement, pas seulement, mais de cet aspect aussi important pour que le poème arrive jusqu'à nous. Et vous intervenez dans divers cursus à l'université, auprès des universitaires et des professionnels. Yadola Rojai, alors je ne sais pas si je prononce bien ton nom.
Rojai.
Oui, très bien. Donc, docteur en droit international à Téhéran. Docteur en droit international à Téhéran, dans la fin des années 60. Vit à Paris depuis assez longtemps. Une des figures majeures, ça c'est moi qui le dis, mais de la poésie persane. Dont le domaine embrasse l'Iran, l'Afghanistan, le Tadjikistan et puis les régions persanophones d'Asie centrale, l'Ouzbékistan. Vous avez publié de nombreux recueils de poèmes ainsi que plusieurs œuvres importantes qui témoignent de réflexions sur la poétique, la phénoménologie, ainsi que j'ai noté un manifeste, poésie de volume, poésie d'espacement, en compagnie d'un groupe de poètes d'avant-garde à Téhéran en 69. Et ce mouvement, qui porte le nom Espace Mentaliste, est animé aujourd'hui encore par des poètes de la jeune génération en Iran. Donc on voit que Rojai est quelqu'un qui a été fondateur de ce mouvement qui n'a cessé de vivre et qui, contre vents et marées et avec bien des difficultés, mais beaucoup de vaillance, continue d'exister. Excusez-moi. J'ai choisi les deux dernières publications parmi une liste trop longue un peu pour une présentation. En 2013, Verset labial, traduit par Christophe Balay aux éditions Tarabuste. Et récemment, en 2016, toujours chez Tarabuste, Septante Pierre Tombale, qui est un texte non pas de l'année 2015-2016, mais qui est une reprise d'un texte publié il y avait une dizaine d'années, je crois, à peu près.
Oui.
Traduit par Arash Joudaki, mais nous nous sommes vus tout à l'heure. Effectivement, quand vous écriviez votre nom sur la feuille, je me disais, ça n'est pas inconnu, parce que c'est quand j'ai reçu le livre de Yadola que... que j'ai été très très ému par ce travail et je me suis dit il faut absolument en parler, l'inviter. Et puis Emma Wagstaff qui vient de Birmingham, d'Angleterre. Alors, maître de conférence à l'université de Birmingham, ses recherches portent sur la poésie française moderne et contemporaine, sur les rapports entre littérature et art visuel. Vous avez dirigé avec Nina Parrish une anthologie bilingue de poésie française contemporaine, Écrire le réel, Writing the Real, publiée à Londres en 2016. J'ajouterais, ça n'est pas du tout une confidence ni un secret, que c'est notre ami, mon ami Philippe Beck, qui dans un échange m'a conseillé d'entrer en contact avec vous parce qu'il était en admiration par rapport au travail que vous accomplissez par rapport à la poésie française et anglaise. Vous êtes l'auteur d'un livre dont je vais massacrer le titre, hein, Provisionality and the Poem, Transition and the Work of Duboucher, ça c'est plus facile, Jacotet et Noël, Bernard Noël, publié à Amsterdam en 2006. Un autre ouvrage qui s'appelle Writing Heart, French Literary Responses to the Work of Alberto Giacometti, plus facile pour Giacometti, publié à Oxford en 2011. Et puis avec Hugues Azérade, Michael Kelly et Nina Parrish, vous avez co-dirigé deux volumes collectifs sur la poésie depuis les années 40-45. Et vous êtes co-directrice d'un ouvrage collectif sur l'avant-garde française avec Stephen Forster. Voilà, les présentations sont un petit peu longues, mais je crois qu'elles sont nécessaires. Donc vous avez devant vous deux traductrices germanistes et néerlandophones, une traductrice du domaine anglo-américain ou strictement
du français en anglais.
Du français en anglais. Et notre ami Yadola qui traduit, lui, le persan. Mais on va revenir sur ces questions. Alors, j'avais simplement quelques lignes pour lancer la conversation, puis ensuite je vais me mêler au public et ce sera à vous de vous débrouiller. Bon, si on les sent en difficulté, vous pourrez intervenir, hein, vous pourrez relancer la conversation. Comment traduire le poème ? La question n'est certes pas nouvelle. Que l'on parle avec le Mallarmé de Chris de Vere, je cite, des langues imparfaites en cela que plusieurs manquent la suprême, ou bien avec Henri Méchonic, grand traducteur, d'une volonté qui était la sienne d'une traduction qu'il appelait généralisée, qu'il opposait à une traduction restreinte, voilà encore des termes un petit peu singuliers, ou encore que l'on pense avec Georges Mounin qui disait il faut être fidèle à la poésie plus qu'à la lettre du poème. On retrouve là cette grande question, que traduit-on du poème ? Est-ce qu'on traduit la poésie du poème ou est-ce qu'on traduit le mot du poème, la lettre du poème ? Comment trouver un chemin dans cette chose difficile ? Le débat, vous voyez, n'est pas clos et ce soir, je crois qu'on n'arrivera pas à conclure, et bien heureusement. Mais pour lancer notre échange, j'ai choisi d'évoquer Walter Benjamin, dans un texte qui s'appelle « La tâche des traducteurs ». On trouve cette phrase qui déplace un peu la problématique d'une manière très subtile, je trouve. Je vous lis avec mon allemand d'aujourd'hui. « Gilt eine Übersetzung den Lesern, die das Original nicht verstehen. » Que l'on peut traduire à peu près par « Que peut apporter une traduction à un lecteur qui ne comprend pas l'original ?» Que peut, hein, c'est un peu ça la traduction, je pense que qu'est-ce que peut offrir une traduction à un lecteur qui n'accède pas au texte original, qui ne comprend pas le texte original. Donc, tentons maintenant d'interroger ce qui se joue entre le poème et sa ou ses traductions, dans cette hésitation prolongée, hein, pour évoquer le grand fantôme valérien, cette hésitation prolongée entre l'original et le traduit. Pardonnez-moi ces mots un petit peu cuistres, mais... Alors, on pourrait peut-être partir de cette réflexion de Benjamin, hein, puisque tout à l'heure, quand je vous en ai un tout petit peu parlé, vous étiez presque unanime pour dire « bah oui, tout est là, hein, tout est là ». Que se passe-t-il entre l'original et le texte traduit ? Qui veut bien, parmi vous, commencer, se lancer ? Nicole ?
Alors, qu'est-ce qu'on traduit ?
Je vais répondre avec une question. Avant, je voudrais dire que je suis traductrice littéraire, mais que j'ai peu de pratiques de traduction de la poésie. J'ai traduit deux fois des poèmes d'une façon un peu importante. Et j'ai participé récemment à une traduction collective d'une poétesse allemande contemporaine. C'est ma seule expérience de la traduction. Mais à partir de quand parle-t-on de la traduction de la poésie ? Est-ce que la prose, ce qu'on appelle la prose de fiction, qui est le roman ou la fiction d'une façon générale, est-ce que les contraintes de la traduction, on ne les a pas déjà dans un texte qui n'a pas le label poème ou poésie ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas versifié. Mais je pourrais vous citer, je vais m'arrêter là, plusieurs auteurs que j'ai ou traduits ou publiés, qui offrent aux traducteurs des contraintes qui sont exactement les contraintes de la poésie. Là, je fais référence d'une part aux traductions, par exemple, de Hertha Müller, surtout les premiers livres qu'elle a publiés, dans cette langue très particulière, ou bien au texte de Wolfgang Hilbig, que je n'ai pas traduit, mais que j'ai publié. Donc, qu'est-ce qu'on traduit ? Qu'est-ce qu'on veut faire passer à la traduction ? Je crois que c'était le point de départ de la phrase de Benjamin.
Oui. Moi, j'ai préparé un petit texte à vous lire sur le conseil de M. Giudecchi, parce que normalement, je parlais. Je préfère maintenant lire ça, et après, bon, il pose ce texte, bien sûr, des choses et des sujets à discuter. On va voir. Au départ de mon intervention, j'aimerais donner une petite correction au titre et au sujet de cette table ronde. Au lieu de dire poésie et traduction, j'aime mieux de plutôt dire poème et traduction. Puisque tous les arts, beaux-arts, sont poésie, que ce soit l'expression du corps dans la danse, dans le corps de danse, ou de la scène, dans le corps de théâtre, ou de la couleur ou du son. Mais ici, on parle de la poésie dans son propre sens, dont l'élément est le mot, qui figure dans un poème qui naît et qui vit au sein de l'écriture. Donc, on ne traduit pas la poésie. Ici, on parle de la traduction du poème, d'un morceau composé dans l'univers de la du langage, de la langue, et par les éléments de l'écriture. J'ai dit composé, et j'insiste là-dessus, pour dire que le poème dont je parle est avant tout une composition, et pas un petit texte qui raconte ou qui narre des vers ou versifiés ou en prose. Un poème, c'est une création, et nous parlons de la traduction de cette création. C'est ici que s'arrête notre problème, d'où le titre de mon intervention, Poème et traduction. Et pour moi, ici, la traduction est traduire le poème dans toute sa forme. Forme est la parole qui l'amène, ou le contenu qui l'amène. Et structure de poème. Traduire la structure de poème. L'ensemble de ces deux éléments qui font le texte à traduire. La traduction du texte, ici, ne s'agit pas seulement de son contenu et de son sens. Sens d'autant qu'on ne sait pas encore le sens du sens. Traduire la forme et la structure du poème était et est toujours ma préoccupation. Bien que j'ai eu de bonnes expériences dans mes praticités de ce domaine, je peux en parler parmi d'autres de celles que j'ai vécues dans l'atelier de traduction de Fondation Royaumont, qui invitait à l'époque, maintenant il paraît qu'il a quitté cet atelier de traduction, et invitait un poète.
Oui, je me permets de t'interrompre.
Pardon ?
J'évoque un peu Royaumont, puisque tu évoques Royaumont, et c'est vrai qu'à Royaumont, s'était inventé il y a une quinzaine d'années
oui.
une modalité de traduction qui a marqué considérablement le paysage poétique français.
Oui.
Un poète était invité, il était entouré de deux, trois spécialistes de la langue et de deux ou trois poètes français, de langue française. Et donc le travail se faisait en présence de l'auteur invité, qui, à partir d'une traduction, disons, littérale, mot à mot, je ne sais pas comment la nommer, des spécialistes de langue qui délimitaient le champ au-delà duquel on tombe dans autre chose que le poème, les poètes traduisaient en français quelque chose qui devait faire poème en français. C'est-à-dire que la publication même des résultats de la traduction le manifestait, puisque les gens de Royaumont étaient tout à fait hostiles à la publication universitaire de la traduction. Vous savez, ces traductions, on a le texte dans une langue originale sur la page de gauche et la traduction à droite dans la langue vers laquelle l'on va. Et ils disaient non, ça provoque une sorte d'hémiplégie de la lecture. Donc on publie le texte original de l'auteur tel qu'il l'a écrit et on publie en coffret un autre livre que l'on met à côté. Des différentes traductions, parce que pour un poème, il y avait la traduction de Claude Esteban, la traduction de Jacques Roubaud, la traduction d'un tel. Et c'était un modèle, tu as vraiment raison de le rappeler, qui a bouleversé la tradition universitaire de la traduction.
Qui pose le problème de la légitimité du traducteur du poème. Est-ce que tous les traducteurs, est-ce que seuls les poètes ont la légitimité pour traduire excusez-moi, je vais quand même employer le mot poésie, parce que des poèmes au pluriel, ça me gêne. Est-ce que seuls les poètes ont la légitimité pour traduire? Et est-ce que le traducteur est cette sorte de go-between où on le relègue dans l'expérience de Royaumont, à laquelle j'ai participé d'ailleurs, mais... quelque part, je trouve que ça pose un vrai problème de la traduction du texte poétique.
Oui, pardonne-moi d'avoir interrompu ton...
Non, merci.
Mais tu as posé vraiment une question de fond quand tu dis plutôt poème et traduction que poésie et traduction. Il est vrai que poésie, c'est homonymique de tellement de choses. Tout est poétique, la table peut être poétique, le jardin en ce moment. Effectivement, le poème et la traduction.
Oui. Bon, de toute façon, je remercie de votre intervention, mais quand même, je vous prie d'attendre que je finisse mon texte et après, on peut parler sur les problèmes et les sujets qu'il pose. Et bien sûr, il y a des choses qui se posent et qui sont...
Parler dans le micro.
Oui, merci. Et sont à discuter. Bon, je continue si vous voulez. Et voilà. Et comme il a expliqué Yves Boudier, c'est vrai que ce Fondation Royaumont, à l'époque, il a invité un poète étranger pendant 5 jours ou une semaine en compagnie des poètes français, des poètes qui donnent, et il trouvait que leur style et leur poésie ont une certaine affinité avec le poète invité. Et à la suite de ce séminaire, À la suite d'un séminaire, d'une semaine de traduction organisée autour de moi et ma poésie à la Fondation Royaume-Monde en mars 1997, au cours duquel Christophe Balaï, qui était professeur de la langue, et civilisation persane à la Sorbonne, et qui n'enseignait personne, donnait le littéral de texte que des poètes français y présents autour d'une table aménageaient en français. Les poètes comme, parmi d'autres, je cite, Claude Esteban, Bernard Noël et Alain Lance, on parle autour de cette table de ce littéral que cet enseignant persan donnait à discuter, à donner version française. J'ai observé que cette traduction collective, bien comparée, bien débattue, plus correcte que cohérente, était cependant infidèle à la forme du poème. Infidèlement fidèle. Même si je peux dire à l'architecture du poème sur laquelle repose toute sa conception poétique. Aussi décidai-je de faire une expérience toute personnelle sur certaines traductions de mes poèmes, c'est-à-dire traduire le déjà traduit, mais sans me pencher sur son littéral. Cette fois, j'ai écrit le français de mon poème en supprimant le persan de ma pensée. Une autotraduction, si je puis dire. Dans cet acte d'autotraduction, que je trouve cette fois fidèlement infidèle, et qui, en vérité, a fait de l'intraductibilité de cette poésie un poème. Au cours de cet acte, je me trouve et me sens placé comme un poète étranger devant son texte à traduire. Le même pratique, pratique que j'ai fait par occasion avec mes amis poètes français, m'a donné des résultats instructifs et brillants. Le côté esthétique du poème, forme et architecture, considéré en même temps comme porteur du contenu et parole du poème. Le traducteur, en préférence un poète, qui regarde toujours dans son miroir de la langue étrangère, y sème forcément des petites étrangetés. Je vous donne ici un exemple de la traduction d'un poème traduit par deux traducteurs, l'un qui est fidèle au contenu et ce que le poème exprime, fait par toujours Christophe Paray, professeur à la Sorbonne et enseignante de la langue persane au sein de l'INALCO, École nationale des langues orientales, et l'autre, la seconde version donnée par le poète Bernard Noël, qui avait les mêmes vers en littéral et mot à mot devant lui, ce que j'ai appelé infidèlement fidèle. Je vais vous donner le texte pour trouver la différence de ces deux genres de traduction ou deux genres d'approche à la traduction de poème. Le texte en persan, c'est... Pardon. Je vous donne d'abord le texte. Je vous donne d'abord le texte persan de ce poème. وقتی که فرار رسم در دایره کرد در دایره رسم رسم برگشتن و گشتن تا شکل فرار گم در رسم شود La traduction de la déclaration de Balaï, bien sûr, comme il y a aussi des audiences personnelles. Personne français, je comprends, il y a des amis qui connaissent le bon persan, il y a les français, mais bon, ouais, on parle de... Que la fuite se dessine dans le cercle, dont le cercle se dessinant, l'usage du détour et du retour. Quand la forme de la fuite disparaisse dans le dessin. Peut-être que je n'ai pas bien récité. Je demande à mon ami à côté de ce texte en français pour lire plus, après comprendre la différence de ce texte traduit en se penchant sur le contenu plutôt avec l'autre que je vais lire et qui donne plus la plasticité de forme et tout ça. C'est mieux que je préfère que vous écoutez aussi la version française par une diction française.
Mais je ne suis pas française.
Ah, pardon. Vous pouvez...
Voilà, la francophone. Quand la fuite se dessina dans le cercle... Dans le cercle se dessina l'usage du détour et du retour, que la forme de la fuite disparaisse dans le dessin.
Voilà, merci. Merci. Maintenant, je vous donne la version française que Bernard Noël a fait en Royaume-Uni. Aux fuites apparaît dans le cercle, trace dans le cercle le dessin du détour et le retour, que la forme d'alors disparaisse dans le dessin. Quand même, lire.
Aux fuites apparaît dans le cercle, trace dans le cercle le dessin du retour. Pardon, je reprends. Aux fuites apparaît dans le cercle, trace dans le cercle le dessin du détour et du retour, que ta forme d'alors disparaisse dans le dessin.
Voilà. Bien sûr, dans une lecture comme ça, on n'arrive pas vraiment à faire ce que les traducteurs, font dans leur travail. Maintenant, le reste de mon texte est où, ici. Je préfère vous donner un deuxième exemple de ces deux conceptions. On a deux conceptions, d'une conception d'un universitaire ou ne pas dire université, de toute façon, de quelqu'un qui se penche sur la correction et sur la justesse des choses, et l'autre qui aime donner plutôt vers la beauté, qui cherche le beau dans le texte. Et je vous donne quand même un autre dans le même idée, dans le même but. Pardon.
Et c'est. La
D'abord, je donne personne. Le texte, personne. C'est ça. C'est cheval. Attends. Ah. چرخ صورت حاکم جنبش آسان جان میانه دندان دشت دانش آهو ماندن ترکیب تن به تنگی میدان ان پتی پوئم م کامم دون پلوس il veut exprimer plus d'après son structure que d'après le ce qu'il raconte. Bon, je après ça, je vous donne la traduction de M. Balaï, pour lequel j'ai attendu mon livre. C'est ici. Van, vous pouvez trouver Van, s'il vous plaît. C'est ça, je pense, oui, voilà. Roue. Roue, face imposante. Légère sursaut de l'homme parmi les dents. Roue, face imposante, légère sursaut de l'homme parmi les dents. Pleine science de la gazelle. Ligne harmonieuse, corps sur le champ de l'étroit. S'il vous plaît, donnez une version française.
Roue, face imposante, léger sursaut de l'âme parmi les dents, pleine science de la gazelle, lignes harmonieuses, corps sur le champ de l'étroit.
Voilà, ce que vous venez de entendre, ça s'est traduit par l'autre poète qui plutôt cherche la beauté et le langage de beau dans le poème. Ô fuite, apparaît dans le cercle, trace dans le cercle.
C'est pas ce poème.
Ah oui. Ah oui, pardon.
C'était celui qui en
fait. C'est où? Pardon. Roue, visage tout puissant, aisance de l'âme parmi les dents, pleine science de la gazelle, stabilité du corps sur le fil de l'espace, prison de la forme prisonnière. Pourriez-vous encore me dire, s'il vous plaît ? Excusez-moi, peut-être ma diction de français ne peut pas.
Roue. Visage tout puissant, aisance de l'âme parmi les dents, pleine science de la gazelle, stabilité du corps sur le fil de l'espace, prison de la forme prisonnière.
Merci. Merci beaucoup. Toutes les deux formes de traduction sont accueillies aussi par deux groupes de lecteurs, ce qui me paraît normal. Dans le cas de poèmes dont les vers et les images nous portent dans un ordre linéaire, mais où, et dans la majorité des cas, c'est la forme des poèmes se présente comme un tout, un ensemble, structuré verticalement. Si je puis dire, La différence de ces deux traductions de ces deux textes de poème, c'est que tous les deux sont accueillis, accessibles, c'est-à-dire que le lecteur voit que c'est bien correct, bien harmonieux, ça adapte bien avec le texte personne. Et l'autre, qui ne donne pas les mêmes narrations, il présente une création. Une création, ça veut dire de ce intraductibilité de la forme et de la structure du poème. Il a fait un autre poème, un poème. Et c'est que le poète se veut, le traducteur, qui est un poète en préférence, se veut artiste plutôt, pour créer. Et voilà. Dans tous les deux cas, je répète, dans tous les deux cas, c'est le traducteur qui est parmi la, parmi les publics de poètes, le meilleur lecteur du poème. C'est vrai que toujours le traducteur, vraiment, c'est le meilleur lecteur du poème. C'est
Alors, voilà, oui. Merci beaucoup parce que là, tu as posé à peu près tous les sujets possibles de conversation sur que traduit-on, le poème, le beau du poème, la forme du poème. Traduire, c'est traduire ce qui est déjà traduit, c'est revenir sur la traduction. Qu'est-ce qu'un lecteur? Comment avez-vous réagi lorsque vous avez entendu les différentes manières, la double traduction de ces poèmes? Était-ce toujours le même poème? Avez-vous entendu le même poème? Ou avez-vous, alors c'est compliqué, reconnu dans la deuxième lecture ce que la première lecture installe aussi? Ça, c'est complexe. Il faudrait finalement éprouver le modèle en le séparant dans le temps, c'est-à-dire en tentant d'oublier une manière de traduire pour reprendre un texte sur l'autre versant de la traduction. Là, vraiment, je crois que toutes les questions sont sur la table et nos amies traductrices n'ont plus qu'à dérouler le fil. Merci.
Oui, oui,
merci.
Oui, enfin, c'est un très long fil. Donc je vais juste commencer peut-être par amorcer la discussion et revenir sur également ce que disait Nicole tout à l'heure et ce dont il a été question ici à diverses reprises. Finalement, le poème, ne peut-il être traduit que par un poète? Voilà. Parce que je pense que dans le fond, c'est une question de fond, ce qui nous amènerait à nous demander si le roman ne pourrait pas finalement n'être traduit que par un romancier. Je déroule le fil parce que dans le fond, c'est la même question. Et je crois qu'on ne dira jamais assez l'exigence du travail de traduction. Tout simplement. Je crois que c'est un... Là aussi, peut-être, je pense que les choses sont en train de changer en ce domaine et qu'on prend de plus en plus la mesure de ce qu'est le travail de la traduction. Pas simplement une transposition, si tant est que cela puisse exister, mais véritablement un travail de recréation ou de création, je ne sais pas comment dire les choses. Et dans le fond, alors c'est toujours compliqué parce que j'ai l'impression du coup de quitter le domaine de la poésie ou du poème pour repartir sur des questions de fond de la traduction, mais je crois que c'est bien de ça qu'il est question, c'est la marge de liberté et de créativité du traducteur. Parce que dans le fond, les deux versions que vous nous avez données, c'est-à-dire une version plus proche du texte et une version plus audacieuse, c'est-à-dire qui ose créer un poème à partir du texte original, sont des questions que tout traducteur se pose quand il traduit, en fait. Quand il traduit un roman, quand il traduit essentiellement un roman, quand il traduit la littérature de jeunesse, voilà. Et donc, c'est cette démarche qui amène finalement à partir d'un texte à créer un autre texte à partir de ce texte-là, sans lui être inféodé, mais en lui étant le plus fidèle possible. Et quand on dit en lui étant le plus fidèle possible, il est bien évident qu'on est contraint de faire des infidélités à la lettre, qu'on traduise un poème ou qu'on traduise un roman, finalement. Simplement, effectivement, la nature même du texte est différente, mais je crois que les problématiques se rejoignent fondamentalement. Alors, ce que je ressens tout de même, tout à l'heure, Nicole parlait de contraintes, parce que je pense que c'est ce qui définit le travail de la traduction, c'est on produit un texte sous contrainte, si j'ose dire. Et peut-être que dans le domaine de la poésie, ou quand on a affaire à un poème, parce qu'effectivement, je trouve le terme poésie compliqué, parce qu'on en revient toujours au problème de la définition, qui est une espèce de serpent de mer dont on n'arrive pas à se sortir. Alors disons, circonscrivons un peu les choses, parlons d'un poème. Je pense que la contrainte est renforcée. C'est peut-être ça qui fait la différence, c'est qu'on a une contrainte encore plus lourde, qui est une contrainte formelle, et il est bien évident que la forme ne se distingue pas du fond. C'est-à-dire que là, ce sont aussi des concepts qu'on a l'habitude de dissocier en France. Tout au long de ma scolarité, on m'a parlé de la forme et du fond, et il a bien fallu au bout d'un moment que je m'aperçoive que bon, ça fonctionnait peut-être pas tout à fait comme ça. Mais voilà, je pense que les contraintes sont accrues et demandent peut-être, je dirais, une audace supplémentaire pour traduire, pour sortir de quelque chose qui serait finalement une traduction peut-être scolaire ou peut-être trop scrupuleuse. Je pense que le scrupule est aussi cette chose du traducteur qui est complexe à travailler, parce qu'il faut ce scrupule et il faut aussi être capable d'être moins scrupuleux. Voilà. Mais je pense qu'on est dans fondamentalement dans une problématique où le traducteur doit être à la fois extrêmement respectueux et très inventif. C'est, je dirais, une ligne extrêmement difficile à tenir et on n'est jamais assuré d'être capable de le faire. Et c'est quelque chose qui s'apprend à la pratique et dont on n'a jamais... Enfin, je veux dire, on apprend toujours. À chaque texte, c'est un nouvel apprentissage. Et de ce point de vue-là, pour en revenir sur cette question du faut-il être poète pour traduire au mieux un poème, je crois que le traducteur littéraire qui n'est pas poète a peut-être cet avantage sur le poète qu'il n'a pas d'écriture, qu'il ne projette pas sa propre écriture sur le texte à traduire. Je ne dis pas par ailleurs que ça ne produise pas des choses intéressantes et des choses très, très passionnantes, c'est pas du tout la question. Mais je pense que le traducteur littéraire, il est celui qui doit en quelque sorte se désapprendre. Il doit désapprendre à écrire pour pouvoir écrire comme l'autre. Et c'est une discipline atrocement difficile parce que je pense qu'on y tend. Je veux dire, on tend vers ça. C'est presque un exercice spirituel. C'est vraiment... Il y a un désapprentissage. Alors, de la langue pour réapprendre. Voilà.
La question que je me pose en vous écoutant, puis en ayant écouté Yadola, c'est... qu'est-ce qu'on fait lorsque on a affaire à un poème qui est dans une structure formelle, qui n'existe pas dans la langue où on veut l'emmener ou dans laquelle on l'invite? Par exemple, la forme sonnet n'existe pas dans toutes les langues du monde. Qu'est-ce qu'on fait quand on traduit Baudelaire en kanak, par exemple? Est-ce que c'est possible?
Là, j'aurais du mal à vous répondre.
Merci. Alors, je ne suis pas poète, je ne suis pas vraiment traductrice. Je suis universitaire, donc j'ai co-dirigé un livre où on fait absolument ces traductions universitaires, le texte français à gauche, le texte anglais à droite. Mais je pense que ça peut être intéressant quand on réfléchit à cette question de ce qu'on apporte au lecteur. Et ce que j'ai traduit, c'est un poème de Philippe Beck, justement, où il s'agit absolument de contraintes et d'une forme qui n'existe pas en anglais. Alors, c'est un texte où il travaille sur le vers. Il écrit des vers avec un nombre impair de syllabes. Alors, on a en tête l'alexandrin qui n'écrit pas. Mais un lecteur anglais, on n'est pas du tout habitué à ça. On ne connaît pas les formes de vers français. Alors, il faut créer un texte ou un texte qui fait référence à quelque chose que le lecteur peut-être ne connaîtra pas. Et, enfin, c'est très difficile, mais c'est aussi très intéressant. Et je n'ai pas vraiment réussi à le faire, je crois. Mais dans le cas de Beck aussi, on ne peut pas vraiment travailler sur la forme sans aussi essayer de transposer le sens, dans le sens aussi que lui, il est traducteur de textes antérieurs. Et dans le cas du texte que j'ai traduit, c'est un poème qui s'appelle « Mots gelés », qui est une réécriture de l'histoire des paroles gelées dans le quart livre de Rabelais. Alors, en général, les lecteurs anglais ne reconnaîtront pas cette histoire. Déjà, lui, il traduit. Et maintenant, nous, en tant que traducteurs, on doit retraduire la traduction en même temps que de travailler sur la forme. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Corinna, sur les difficultés, le travail que je viens de découvrir, parce que vraiment, je commence à ce moment-là à essayer de traduire du français en anglais.
Oui, pour effectivement reprendre ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne peut pas, on ne doit pas, je pense, faire systématiquement le procès de l'universitaire qui traduit. Enfin, là, je me défends aussi un peu moi-même. Je suis à la fois traductrice et universitaire, mais on ne peut pas dire, voilà, il faut être poète pour pouvoir traduire la poésie. Je pense qu'il faut effectivement, il faut arriver à recréer quelque chose, ou même à créer quelque chose qui ne se trouve pas peut-être ni dans l'original, ni dans la traduction, dans son premier état, mais qui fait que le poème redevient un poème. Enfin, ça, c'est évident. Je ne crois pas qu'il faille nécessairement pour ça avoir soi-même une œuvre poétique. Et tout à fait, comme tu disais, il y a le risque de l'autocalque, je dirais presque. Donc là, je ne vais pas du tout faire le reproche à Bernard Noël d'avoir fait ça. Enfin, je prends son exemple parce que c'est lui que vous avez lu. Mais le risque pour Bernard Noël, c'est de faire du Bernard Noël. C'est un risque que le traducteur n'aura pas. Enfin, c'est autre chose. Oui. Oui. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout. Bon, Henri étant Henri, il a gagné, mais voilà. Mais bon, oui, pour donner un exemple très concret, oui. Donc, Lutse Bert était un des premiers grands poètes expérimentaux des Pays-Bas, donc qui a commencé à écrire vers 1945. Et qui a finalement d'un seul coup balayé tout ce qui était la poésie traditionnelle néerlandaise avec sa prosodie, ses rimes, ses petites thématiques romantiques, tout ce qu'on veut. Mais il a fait ça de manière très ironique, et notamment dans un de ses premiers poèmes, en reprenant la forme du sonnet classique, en rimant, mais dans ce sonnet en faisant le procès de toute cette poésie très lyrique et très traditionnaliste. Et Henri a dit, voilà, en France, on ne rime plus. Donc il a refusé de traduire ce sonnet en conservant justement la forme. C'est pas sûr, sur ce point-là, je ne suis toujours pas d'accord avec lui 15 ans après, mais voilà. Donc,
il n'était plus d'accord avec lui-même, d'ailleurs. Parce que...
Peut-être, il faudrait que je lui pose la question. Mais...
Je pense que Henri aime dans la traduction le goût du conflit. Le goût de... Essayons d'excéder un petit peu la force du texte pour voir ce qui résiste ou pas. Parce que c'est vrai que souvent, la rime, c'est facile en français. On connaît toutes les fascinations et tous les reproches critiques aussi que les poètes ont fait à la rime. Et en même temps, c'est paradoxalement très, très difficile, puisque Jacques Robeau continue de rimer parfois. Donc on voit bien qu'on n'en a pas fini avec cette question des formes.
Oui, donc tout à fait. Mais donc là, je pense que quelque part, c'est sa prise de position de poète qui l'a gêné et qui l'a empêché d'aller vers Lutse Bert et de faire ce pas vers la dérision, finalement. Voilà.
Corinna. Oui, non, juste un mot par contre pour dire, je trouve extrêmement intéressant qu'on ait plusieurs traductions du poème. Je crois que, en plus, là, c'est vraiment quelque chose qui montre à quel point autant de traducteurs, autant de traductions. C'est assez déstabilisant d'ailleurs, c'est assez perturbant de se rendre compte de ça, parce que finalement le lecteur est en droit de se demander ce qu'on lui donne à lire, parce qu'il y a toujours, même si on se désapprend en tant que traducteur, enfin on désapprend une certaine pratique de la langue pour pouvoir recréer quelque chose qui soit véritablement aussi la parole de l'autre, ou le plus près possible de la parole de l'autre, on a quand même... on est le, chaque traducteur est le filtre par lequel passe le texte. Et ce filtre est un filtre éminemment subjectif et il ne peut pas être autre chose que subjectif. Après, cette subjectivité se travaille. Mais voilà. Et donc, je pense que cette multiplication des traductions d'un même texte est absolument passionnante parce qu'elle montre ce qu'on peut faire à partir, ce qu'on peut créer à partir d'un texte. Et ça donne ça jette un éclairage très particulier sur l'exercice même de la traduction.
Oui, je voudrais rebondir, je voulais intervenir un petit peu là-dessus aussi. Il y a un seul original et il y a de multiples traductions. Et là, c'est un truisme de dire que la traduction n'est pas une science exacte, mais il faut toujours le rappeler parce que quand on dit « Ah, on va retraduire la montagne magique », la question qui vient après, qui vous est toujours posée, c'est « Pourquoi la traduction était mauvaise ?» Non, la traduction n'était pas mauvaise, mais elle a été faite à une période particulière, dans une esthétique particulière. Et bien sûr, la part de subjectivité du traducteur fait qu'il véhicule avec lui, même s'il se dessaisit de sa langue pour être un peu caméléon et trouver la langue vraiment de l'auteur qui traduit. Il véhicule avec lui une sensibilité de l'époque et on s'en aperçoit quand on relit des traductions qui ont été faites dans la première moitié du XXe siècle. On se dit non, maintenant on ne pourrait plus traduire comme ça. Pas parce que c'était faux. Bon, bien sûr, il y a quelques exemples, on peut dire, mais il y en a toujours, il y en aura toujours, mais parce que du point de vue de l'esthétique et de la sensibilité, ça ne correspond pas. Il me semble que le traducteur est un peu dans la situation de l'interprète dans un concert, c'est-à-dire, ou même un instrumentiste. Il a une partition, nous avons aussi une partition, il crée quelque chose à partir de sa partition, et la marge de manœuvre est extrêmement faible parce qu'il ne doit pas faire de fausses notes. Principe, mais il met quelque chose de lui-même, il met toute sa sensibilité. Parce que ce qu'on traduit, on ne traduit pas des mots, on traduit aussi ce qu'il y a derrière les mots. On traduit ce que les mots véhiculent, on traduit une musicalité, on traduit des couleurs qui sont données par les mots, on traduit un rythme, on traduit des tas d'éléments qui sont dans le texte, mais qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas vraiment le sens. Mais tout ce qui n'est pas le sens fait sens, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, et c'est vraiment la contrainte du traducteur, c'est-à-dire de tout rassembler dans sa traduction et tout ce qui est quelquefois impondérable. D'où le infidèlement fidèle ou fidèlement infidèle. Effectivement, à un moment, on est obligé de faire des choix. Et parce qu'on est en conflit entre la panoplie de mots que nous offre la langue d'arrivée et ce qu'on veut mettre, ce plus qui est dans le texte, qui est derrière le mot, qui se cache derrière le mot. Et ça, cette contrainte, elle existe bien sûr d'une façon maximale dans un texte pour lequel la forme, on est obligé d'employer ce mot, et elle-même une contrainte, elle est la contrainte que l'auteur s'est donnée. Donc pour le traducteur, c'est une contrainte supplémentaire. Mais elle existe, ce genre de contrainte au pluriel existe pour tous les traducteurs, je pense.
J'aimerais avoir votre point de vue sur il ne faut pas être poète pour être un bon traducteur.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça, Kim ou Emma? Je me souviens par exemple de traductions que nous avions faites à partir des galéco-portugais il y a quelques années dans un collectif et à partir d'un poème qui était en gros mot à mot « Le roi a demandé que l'on construise des barques nouvelles ». On avait une version minimaliste de Jacques Roubaud, c'est « Le roi de point débarque ». Point d'exclamation. Le roi débarque. Et quelqu'un avait fait une traduction en 3 pages du poème qui décrivait, avec l'ethnologie marine de l'époque, la construction précisément des bateaux au Portugal au XIIe siècle, XIIIe siècle. Et ces deux textes étaient le seul moyen qu'on avait d'approcher, en fait, cette langue qui nous échappait beaucoup et qui ne dit pas grand-chose quand on traduit « Le roi a demandé que l'on construise des bateaux nouveaux ». Alors que les deux versions qui étaient là questionnait le lecteur d'aujourd'hui et le questionnait pas seulement en termes contemporains mais aussi en allant rechercher quelque chose qui appartenait à l'historicité même du texte, à son contexte.
Mais il me semble que vous employez traduction dans un autre terme, dans un autre sens ici, en fait, qui est non pas de traduire le texte, mais traduire ce que dit ce texte que nous ne pouvons plus comprendre, en fait. Parce que ce ne sont pas des traductions, ce sont des, je veux dire, des gloses, des gloses minimalistes ou des gloses maximalistes. Mais c'est, il me semble, là, employer le mot traduction dans un autre sens, qui est aussi son sens, d'ailleurs, mais peut-être qui excède là ce que nous disons, quoique ça le rejoigne, parce qu'en fait, aussi, ce que nous traduisons, c'est aussi cet impalpable. Et le problème, je dirais, c'est ce qui est la caractéristique de toute création aussi, c'est qu'il y a toute une part d'inconscient, de choses qui se passent à notre insu, qu'on met dans la traduction, qui est aussi notre façon de restituer inconsciemment ce que nous percevons du texte, et en général ce sont les lecteurs qui nous en font prendre conscience, ou les éditeurs qui nous disent « Ah, mais votre texte, il est comme ceci ou il est comme cela, et vous n'en avez rien su, parce que vous avez mis en œuvre vos moyens littéraires sans vous rendre compte de ce que vous faisiez, en fait, et de ce qui passait dans votre traduction. » Et ça, c'est toujours une expérience que je trouve assez incroyable. Quand un éditeur me dit « votre texte est comme ci ou comme ça », j'ai envie de dire « mais j'en savais rien, en fait, voilà ».
C'est vrai, à cause de mon travail de directrice de collection, je relis beaucoup de traductions, enfin, je relis toutes les traductions qu'on publie qui sont traduites de l'allemand au français, et il m'arrive aussi de dire aux traducteurs de trouver quelle est la part de créativité et ce qui fait que sa traduction est originale. Mais parce que pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a un texte original et de multiples traductions, mais chaque traduction est aussi originale. Et c'est tout le dilemme de la traduction, parce qu'on peut comparer deux traductions, bien sûr de poèmes, mais aussi de Stefan Zweig ou d'autres, qui sont retraduits régulièrement. On a à chaque fois quelque chose, un plus, quelque chose qui tient au traducteur. Et quand on relit la traduction, et quand on n'est pas soi-même le traducteur, on peut presque caractériser la traduction nouvelle qu'on a sous les yeux. Et c'est une expérience très, très intéressante de comparer les traductions. Mais là, on sort complètement. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand j'ai posé la question de la légitimité du traducteur de poèmes, je ne pensais pas avoir... Enfin, je ne l'ai pas posé parce que j'avais une arrière-pensée et une réponse. Je pense qu'il y a des traductions de poètes qui sont très, très intéressantes, même si... Elle nous entraîne un peu loin par rapport à l'original, parce qu'effectivement, c'est une recréation, c'est une œuvre. Bon. Et il y a des traductions d'universitaires qui sont magistralement réussies. Donc, les deux existent. Et les deux, je crois, coexistent. Ouais.
Par exemple, pour prendre le cas de Rilke et Sonnet, quelle est ta traduction préférée et pourquoi?
Alors, je ne sais pas, parce que je ne lis jamais la poésie allemande en traduction, et je n'ai jamais eu un travail à faire qui m'ait forcé à lire la poésie allemande en traduction. Peut-être que Corinna...
Non, enfin, je suis un peu dans le même cas. Simplement, je peux dire que j'ai été amenée à lire la traduction d'un certain nombre de poèmes de Rilke par Jean-Pierre Lefebvre, et je peux vous dire que j'étais éblouie. J'ai été éblouie par son travail. C'est une poésie qui est d'une difficulté atroce à traduire. Bon, on ne va pas gloser sur la question de la perte en traduction, parce que c'est vraiment là aussi une chose tout à fait fondamentale. Mais je trouve qu'il a vraiment réussi magistralement à restituer quelque chose de Rilke qui passe formidablement. Enfin, je veux dire, je me suis sentie toute petite quand j'ai lu ces textes-là, en me disant « Ouh là là !» Voilà, c'est une très très belle traduction.
Le poète que je préfère, c'est André Duboucher, mais je n'arriverai jamais, je crois, à traduire sa poésie à cause du nombre fascinant de nuances qu'il réussit à inclure dans un seul mot ou dans les façons dont il change un mot en verbe, en nom, en adjectif, en participe passé, etc. Et ça, c'est, j'ai essayé de le faire, mais c'est vraiment très, très difficile. Il existe des traductions anglaises du Boucher et en d'autres langues aussi, j'en suis sûre, mais là, je n'oserais pas. Ce que je voulais dire quand je vous ai entendu poser la question de s'il faut être poète pour traduire la poésie, je me demande ce qu'on peut en dire dans les cas où les poètes, par exemple les poètes français contemporains, qui ne se disent pas poètes, qui préfèrent le mot écrivain, qui croient qu'il n'y a pas de langage poétique différent du langage de tous les jours, qui rejettent cette idée en fait. Alors s'il faut être poète pour bien traduire un poème, cela implique qu'on croit qu'il y a une langue poétique, un langage poétique séparé. Je ne sais pas si vous avez traduit Jean-Michel Espitalier, je crois. Est-ce qu'il ne se dirait pas poète, c'est vrai? Plutôt écrivain?
Je pense qu'il ne serait pas foncièrement contre, oui. Enfin, je ne sais pas.
Mais...
Ce qui est vrai. Oui, enfin, il y a cette question-là, mais je pense que le problème n'est même pas vraiment là, parce que enfin, tout langage est le langage poétique, ou aucun langage ne l'est. Enfin, voilà, ça c'est juste voilà, qu'on écrive en sonnet, en haïku, enfin, voilà, c'est un parti pris, et tous les langages se valent, à mon sens. Je pense que... Bon, là, j'essaie de me faire un peu l'avocat du diable parce que bon, ce n'est pas du tout mon point de vue, mais que ceux qui disent que les universitaires ne savent pas traduire sont ceux qui ont cette espèce d'idée d'une inspiration divine qu'on ne pourrait pas invoquer. Ça, c'est évident, de toute façon. Invoquer à souhait pour la faire, pour la faire refaire effet dans une traduction ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas trop quelle est l'idée derrière, mais donc l'idée qu'on ne peut pas être créatif et universitaire ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas trop. Mais enfin bref. Mais de toute façon, enfin, je pense que tout traducteur, poète ou non, il tend vers la traduction idéale, mais la traduction idéale, elle n'existe pas. Donc de toute manière, toute traduction est imparfaite. Enfin, moi, je termine toujours sur une frustration. Donc voilà, lorsque tu posais à l'instant la question du poète qu'on ne pourrait pas traduire, donc tu l'as posé à Emma, mais enfin, je pense qu'on a tous nos petites bêtes noires, mais finalement tous les poètes sont intraduisibles quelque part. Enfin, en tout cas, voilà, moi mon travail ne me donne jamais entière satisfaction.
Tout à l'heure, quelqu'un parmi vous disait le poète, enfin, le traducteur est le meilleur lecteur.
Je crois que c'est.
Mais, voilà. Réagissez à cette proposition. Le traducteur est finalement le meilleur lecteur.
Alors, je ne sais pas s'il est le meilleur lecteur, mais en tout cas, c'est un lecteur unique, d'une certaine manière, parce qu'il lit le texte d'une manière unique. Et cette lecture, enfin, moi, j'avoue que je ne sais pas bien la définir. Je la pratique. Et au fur et à mesure que je travaille, au fur et à mesure de ma pratique, au fil des années, je me rends compte que cette lecture évolue et que peut-être aussi parce que, ben, tout simplement, quand on pratique, on devient, c'est comme dans un sport, on devient plus souple, on devient plus réceptif, et du coup, il y a des choses qui se passent qui sont tout à fait étonnantes, une forme d'empathie, une forme d'entrée en résonance, et ça, je pense qu'effectivement, c'est assez unique parce que on entre dans la texture véritablement de l'écrit. On ne sait pas forcément expliquer ce qui se passe, mais il y a vraiment des choses très, très intéressantes qui se produisent et qui vous amènent, je pense, à traduire autrement. Mais ça ne se fait pas de façon délibérée. Je crois que ça se fait tout simplement parce qu'on travaille et qu'au bout d'un moment, il y a une espèce d'alchimie qui se crée. Et c'est pour ça aussi que c'est quasiment impossible de rentrer immédiatement de plein pied dans un texte. Il faut prendre le temps de rentrer dans un texte. Et je pense que l'exercice, quand on traduit un poème, est nettement plus difficile que quand on traduit un roman, parce que dans le roman, vous avez le temps de rentrer. Dans un poème, la forme est tellement réduite que c'est extraordinairement difficile.
Plutôt de poème, plutôt
plus la forme est courte, plus c'est difficile. Dans un roman, c'est ce que tu viens de dire, dans un roman, on travaille dans une durée et qui ressemble à une gestation. Parce que même si on a terminé de, je sais pas, on en est à la moitié ou aux trois quarts, ce qu'on a déjà fait, on l'a en soi, on le porte en soi. D'ailleurs, il est fréquent qu'on revienne 50 pages plus tôt en disant, ça y est, maintenant, j'ai trouvé, voilà, il faut que je modifie. Et ce sont sans arrêt des allers et retours dans le texte. Quand une forme est courte, en général, on a une autre contrainte dont on n'a pas parlé, c'est la contrainte de l'éditeur. Et le temps n'est pas infini. Quand on traduit, si on traduit 10 poèmes, c'est rare. Si, ça peut se trouver, mais c'est rare que l'éditeur vous dise bah, vous avez 18 mois, un an, ou 18 mois, ou deux ans, ou le temps que vous voulez. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on a en plus cette contrainte du temps qui perturbe. Et c'est pour ça que j'en arrive à la conclusion. Pour les nouvelles, c'est pareil. Enfin, moi, je trouve que traduire des nouvelles, c'est beaucoup plus difficile que de traduire un roman. Parce que souvent, quand on a un recueil de nouvelles, chaque nouvelle est un tout dans lequel il faut rentrer pour 4 pages, 6 pages, 8 pages. C'est très difficile. Tandis que dans la continuité d'un récit, d'un roman, même ce qu'on appelle dans l'édition allemande de prose narrative, ce n'est plus ni roman, ni récit, ni rien du tout. Si le texte est long, on a le temps de le porter en soi pendant tout ce travail. Et pour moi, le temps... Enfin, je trouve que quelquefois, la traduction, elle se fait à des moments où je ne suis pas assise en train de traduire. C'est, tout d'un coup, je me dis, tiens, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Mais si, je sais aussi que si je m'acharne sur quelque chose qui est difficile, ça ne viendra pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Donc, dans la forme très courte, il faudrait avoir le temps de garder le poème en soi, de le savoir par cœur et de se promener avec, de vivre avec. Et puis, tout d'un coup, voilà, ça vient.
Et on arrive à se défaire de certaines traductions, un peu comme quand on a découvert une œuvre musicale, on a dans l'oreille la version d'un tel, et puis on en entend une autre un jour, on se dit, non, c'est épouvantable.
Ce qui est pervers, c'est quand on traduit un auteur, quand on suit ce qu'il fait, on arrive à être imprégné par la forme, l'écriture, et ça agit sur... Enfin, il y a une influence sur sa propre écriture. Et ça, je trouve ça un effet pervers de la traduction.
Sur sa propre écriture de sur... création ou oui, la propre oui, écriture
oui,
du
oui,
traducteur
oui, 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 oui. Oui, oui. Et c'est vraiment un effet pervers, ça.
Mais c'est bien les effets pervers, non, en l'occurrence. Enfin, un traducteur traître, trahison, perversion, enfin, on a tout un champ là qui... Ce n'est pas une affaire de morale en tout cas. Emma, vous évoquiez donc le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'auteurs parlent plutôt de texte. Enfin, cette école qui est née un peu avec des gens comme Christian Prigent ou d'autres en France, hein, sur l'abandon des catégories qui font de la poésie quelque chose qui est soit survalorisé, soit particulièrement défini. Est-ce que ça ouvre des champs nouveaux au fait de traduire les formes, ou est-ce que ça n'est pas une sorte de dilution finalement de...
Pour ce qui est de la traduction en anglais, je pense que ça introduit pour les lecteurs un champ vraiment très, très différent. On n'a pas ça dans le domaine anglophone, je crois. Il y a des aspects plutôt avant-gardistes dans la poésie contemporaine de langue anglaise, poésie britannique, mais les liens, je crois, ont été plus forts entre la France et les États-Unis qu'entre la France et la Grande-Bretagne. Alors, cela ouvre plein d'horizons, mais pour ce qui est de la forme, c'est moins sûr. Quand on a travaillé sur l'anthologie que j'ai dirigée, Ma collègue a traduit un texte de Chaton qui avait l'air simple. C'était des vers, des énoncés qui étaient pris d'un texte qui existait déjà. Mais il y avait j'oublie le mot français. C'était il y avait à la fin une réponse à une question. C'était sur la vie de Vico. Les énoncés étaient pris d'une biographie de Giambattista Vico. Et c'était et on demandait à la fin du poème, alors c'est qui la personne? C'était clair dès le début, mais on demande quand même, c'est qui la personne dont on parle dans ce texte? Et en bas de la page, la réponse était son nom est pareil à un célèbre marque de chips. Donc, ma collègue, elle a traduit tout le poème sans trop de problèmes. Et puis, elle s'est dit, alors, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on n'a pas cette marque de chips en Angleterre. Donc, je vais peut-être vous demander de réfléchir à la solution.
C'est très intéressant. C'est un lien, la preuve vraiment du lien entre contemporain et place du texte dans le contemporain. Est-ce que vous souhaitez intervenir ou poser une question ou commenter? Oui, allez-y.
Merci beaucoup pour vos interventions. Et moi, j'ai des questions d'ordre vraiment pratico-pratique. Ouais. Alors, il y a un poète que j'aime énormément qui n'a pas été traduit en français. Et il est bolivien. Enfin, il était bolivien. Et que faire pour intéresser un traducteur, un éditeur? Qu'est-ce que je peux faire? C'est totalement bénévole parce que moi j'y gagne rien. Mais parce que je pense qu'il a écrit une œuvre qui est exceptionnelle et qui mérite d'être connue sur un plan international. Il y a déjà des œuvres quelques œuvres ont été traduites en anglais, en italien, il me semble en néerlandais. Pas du tout en français. Voilà.
Donc, finalement, ça pose la question.
Livre, je pose la question.
Comment un auteur arrive dans notre langue, quoi.
Bah, écoutez, il y a en fait pas de recette parce que sinon ça se saurait. Simplement, il y a. Il marche ce micro ou non? Je crois que. Oui. Bon. Simplement, je peux vous répondre d'expérience, parce que j'ai, comment dire, apporté un certain nombre de textes à des éditeurs qui n'étaient pas des textes de poésie, mais l'important, c'est si vous êtes effectivement absolument convaincu de l'importance de cet écrivain, de ce poète, c'est d'essayer de cibler en fait les éditeurs susceptibles d'être intéressés. Si vous tapez trop large, vous allez très vite être déçu parce que les éditeurs sont des gens extrêmement sollicités, très souvent, qui ne prennent pas nécessairement la peine de répondre et qui prendront d'autant moins la peine de répondre si ça ne s'inscrit pas dans un horizon possible pour eux. Donc là, peut-être à la fois chez des éditeurs alors de poésie, mais aussi chez des éditeurs qui publient la littérature, par exemple, d'Amérique latine. Alors que ce soit des éditeurs qui ont pignon sur rue ou des petits éditeurs qui sont souvent très, très volontaristes, très ouverts à des propositions. Et là, vous avez peut-être une chance de toucher quelqu'un, parce qu'en général, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une rencontre et un coup de cœur pour un voilà, c'est ça. Oui. Oui. Voilà, c'est souvent le cas.
Oui, il faut être tenace souvent. Les revues sont un excellent vecteur aussi. Il faut regarder quelles sont les revues qui traduisent de la littérature étrangère d'une façon générale, ensuite sélectionner au plus près par langue ou même s'adresser à ces revues. Parce qu'il y a toujours des traducteurs, les revues qui traduisent ont un groupe de traducteurs avec lesquels ils travaillent, donc ils peuvent être aussi de très très bons intermédiaires, si vous arrivez à les passionner pour ce que vous voulez faire traduire.
Deux langues n'interviennent pas dans la traduction. La culture qui existe, par exemple, dans un domaine géographique, les gens ils parlent une langue, et quand on traduit, une autre culture quand même. Oui. Comment ça...
Je ne crois pas que vous ayez exclu cette dimension-là.
Non, mais vous voulez...
Bon, on a tout en commun qu'on travaille quand même sur des domaines géographiquement assez proches, donc où les différences culturelles ne sont peut-être pas très tranchées, mais c'est, oui, c'est évident qu'il y a ce genre de problème, oui, qu'il y a des petites choses, enfin, on appelle ça, je vais faire mon universitaire, des réalias, donc des réalias, donc des éléments qui font partie de la réalité, mais pas de la langue, et qui n'ont donc pas forcément d'équivalent linguistique dans le dictionnaire. Et bon, il y a toujours des solutions, enfin...
Par exemple,
la paraphrase, par exemple, on remplace par quelque chose qui pourrait plus ou moins être équivalent dans le contexte donné. On supprime parfois parce que bon, on a aussi ce pouvoir-là. Enfin, on peut mettre des notes, mais bon, pas dans les poèmes, c'est quand même moins bien vu. Enfin, il y a des, il y a des petites techniques comme ça. Mais c'est vrai que parfois, ça peut poser problème, oui. Et ne serait-ce que parce qu'il y a des choses aussi qui ont une connotation. Enfin, je ne sais pas si un Irlandais parle de patinage et que je vais traduire ça en français, ça n'aura pas du tout pour le lecteur français la même valeur sentimentale que pour le lecteur néerlandais. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, bon.
Il est évident qu'il faut bien connaître la culture de la langue qu'on traduit. C'est recommandé.
Mais je crois que de toute façon, c'est vraiment le fondement même du travail de traduction. C'est-à-dire qu'on met... Oui,
ça marche. Je crois que c'est fondamentalement essayer de croiser un univers qui se rejoignent par beaucoup de côtés et qui ont des différences, je dirais, irréductibles. Donc c'est vraiment ça. Alors parfois, ça peut amener à une forme d'intraduisible. Je sais que j'avais dans le temps, il y a fort longtemps, lu un texte pour un éditeur où j'ai finalement dit, c'était un écrivain autrichien, je lui ai finalement dit, à mon sens, ce n'est pas traduisible parce qu'il faudrait des notes à chaque phrase. Donc, parce que tout était tellement fondé sur des références continuelles à la culture du pays que ça devenait quasi impraticable, sauf à se transformer en un autre texte, en fait. Non plus en traduction, mais en quelque chose qui aurait été à la fois une traduction, une glose, etc. On aurait très bien pu imaginer un autre texte, mais ça rentrait pas dans le champ de ce qui était... Ça m'est arrivé une fois d'avoir à donner un avis de cette nature, mais sinon, c'est l'ordinaire, en fait, du traducteur. Ce qui fait à la fois qu'il se désespère par moment et à la fois qu'il est obligé d'inventer, précisément. Sinon, il n'y aurait pas de travail.
Mais cette obligation d'invention, elle est constante, non ?
Constante.
Que faire, par exemple, de la traduction de Finnegan's Wake, Joyce, en français, le texte est intégralement traduit. Traduit par un biologiste acharné qui a consacré sa vie à essayer de trouver des équivalents et qui est allé jusqu'au bout dans un jeu d'équivalence, mais qui est un texte aussi singulier finalement que le texte source et qui n'est pas une traduction. Est-ce que ça vous est arrivé de quand le texte passe dans une autre langue, de le trouver meilleur? Meilleur, quoi. Non.
Oui. Je sais que certains écrivains trouvent leur texte meilleur dans une traduction donnée.
Oui.
Et il arrive, et malheureusement je n'aurai pas de nom à vous citer parce que tout simplement là, ça ne me revient plus, mais j'ai une collègue traductrice qui a traduit un écrivain à partir du texte anglais, de la traduction anglaise, à la demande expresse de l'écrivain. En général, ça ne se fait jamais. C'est-à-dire que ça ne se fait pas, c'est ce qu'on appelle être induction relais, ça ne se fait plus, en tout cas. Mais là, c'est la demande express.
Ça ne se fait plus, ça s'est fait.
Et ça s'est fait, oui. Tout à fait, absolument.
Oui. En France, ça s'est fait beaucoup.
Et ça se pratique encore dans un certain nombre de pays où il n'y a pas le vivier de traducteurs nécessaire pour pouvoir traduire de la langue originale. Donc, ça n'est pas du tout critiquable ni condamnable, c'est aussi le reflet d'une situation particulière. Mais donc, certains écrivains estiment que leur texte a été meilleur dans une traduction donnée, a été retravaillé comme ils le souhaitaient. Et donc, ça devient le texte de référence. En fait. Voilà. C'est rare, mais ça arrive.
Mm-hmm. Tu m'as dit, quand je vais poser la question.
Oui, mais enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que moi, je pensais plutôt que lorsque c'est le cas, c'est que l'original est très mauvais. Je ne citerai pas de nom, mais ça a pu m'arriver une seule fois.
D'améliorer le texte.
Oui, mais pas contre mon gré, parce que bon, c'est quelque chose qu'on ne cherche jamais à faire, mais parfois c'est tellement mauvais que moi j'arrive pas à reproduire quelque chose d'aussi mauvais.
Vous êtes déjà fâché avec des traductions? Vous avez déjà...
La traduction de Bernard Lortolari, la traduction du livre de Susskind, Le Parfum, est, à mon avis, beaucoup plus belle que le texte d'origine. C'est une traduction extraordinaire, parce qu'il a restitué en français la langue du 18e, et c'est un bijou, sa traduction.
Donc, quand on lit, mieux vaut ne pas savoir que c'est un texte traduit.
Ah ben, je crois qu'en France, cette fameuse traduction de Susskind, de Parfum, beaucoup, beaucoup de lecteurs ont pensé que c'était un original.
Bien sûr.
J'aurais une question sur les auteurs vivants. Mais est-ce que vous travaillez avec le son? Et en ce qui concerne la poésie, la question que je me posais, c'est est-ce que vous leur demandez, je suis débutant, de vous le lire? De vous lire le poème? Parce que j'ai l'impression que peut-être, enfin, c'est un mot ressenti, qu'il faut peut-être passer un certain nombre de choses, qu'il y a la lecture, ne passe pas, enfin, à voix haute, différent de juste à l'écriture.
Très très bonne question.
Alors je répondrai en dehors de la poésie, mais il m'est arrivé effectivement de chercher sur le net, sur YouTube par exemple, si je trouvais, parce que là on a la chance pour les écrivains allemands, enfin j'en ai une bonne, voilà, qu'ils font des tournées régulièrement. Qu'ils lisent, et donc j'ai pu comme ça entendre un certain nombre des écrivains que je traduisais lire leurs textes, et ça m'a été extrêmement précieux, voilà, parce que j'entendais quelque chose que je percevais autrement, mais là je dirais presque en raccourci, et ça c'est formidable quand on peut entendre.
Oui, moi aussi, en dehors du contexte des poèmes, les écrivains allemands lisent. Et je trouve que vous soulevez un problème très important, il faut savoir où est la respiration.
Oui.
Un écrivain qui est asthmatique a un rythme qui n'est pas le rythme respiratoire d'un autre écrivain, d'une autre personne. C'est très, très important dans l'écriture. Et dans la traduction, c'est important dans son écriture, et donc c'est fatalement important pour le traducteur.
J'ai fait une expérience extrêmement intéressante au Baléares, où il y avait, enfin, exactement à Majorque, il y avait un festival de la poésie méditerranéenne. Il y avait des auteurs qui n'étaient pas méditerranéens d'ailleurs, des poètes qui n'étaient pas méditerranéens, et tout le monde lisait dans sa propre langue. Alors, on ne suis pas multilingue, donc il y a un certain nombre d'auteurs qu'on comprenait, d'autres qu'on ne comprenait pas, mais c'était extrêmement intéressant d'entendre en fait cette musique. Que comme c'était en plus répété plusieurs fois, dans plusieurs endroits, dans plusieurs contextes, parfois certains langues, on avait quand même l'impression, j'ai commencé à appréhender cette langue, de l'entendre plusieurs fois. Et quand on comprenait la langue, alors là c'était un bonheur extraordinaire. Et il me disait que dans la traduction, pour le traducteur, ça doit être une source de. Voilà, c'est une forme de dictionnaire, je ne sais pas comment dire.
Je sais que les poètes français sont souvent très heureux d'être traduits dans des langues comme l'anglais, par exemple. Le français est quand même très monotonable. Hein, et il y a une manière de faire entendre la vocalité du poème, lorsqu'il est dans une autre langue, qui apporte quelque chose à la compréhension même que l'on a dans la langue d'origine, quand on a écrit ce fameux texte. Hein. Moi, j'ai fait cette expérience avec un petit passage traduit en anglais, où les mots anglais... le hasard, c'est que c'était le mot, je crois. crois, filet, nœud. Donc, et ça sonnait en anglais de façon extraordinaire, comme ça ne sonnait pas en français. Hein, chaque maille, chaque nœud, chaque filet, c'était « it's not, it's night ». Ça devenait quelque chose que je trouvais bien meilleur que... Et ça, c'est intéressant.
Et là, alors, pour les germanophones et je pense les anglophones, on sent, il y a cette souplesse absolument invraisemblable de la langue qui est en plus d'une inventivité constante, parce que l'inventivité, en fait, elle fait partie de la langue, c'est-à-dire qu'elle est induite par le fonctionnement de la langue. Et c'est vrai que le français n'a pas cette même souplesse, et l'inventivité est très souvent, c'est très curieux d'ailleurs, très souvent ressentie comme un coup de force, comme une forme de transgression, alors que ce n'est pas du tout le cas en allemand et en anglais. L'inventivité fait partie de la capacité expressive de chacun. C'est l'expression même de voilà. Et ça, c'est et je sais qu'en tant que traductrice, et ça me vient maintenant de plus en plus, je regrette terriblement de ne pas pouvoir inventer des termes en français, parce que du coup ça me ferait basculer dans autre chose, et je serais en déphasage avec le texte d'origine. Mais j'aurais envie d'inventer de la même manière que l'allemand invente. Il invente parce que c'est dans sa...
C'est très français, France métropolitaine. Vous allez en Afrique.
Oui, absolument, absolument.
La liberté qu'il y a.
Je suis bien d'accord.
C'est peut-être quelque chose de très français
qui entre en nous. Tout à fait.
On a du mal à s'autoriser de la liberté.
Et c'est pour ça qu'on a une espèce d'euphorie quand on lit en fait les textes de toute la zone francophone, parce que tout d'un coup on s'aperçoit ce qu'on peut faire avec le français d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on est très contraint par un certain formalisme de ce français-là.
Alors là aussi, je me pose une autre question. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes de parents de double culture ou non? Parce que mon impression, c'est que lorsque l'on est d'une double culture, on a moins cette barrière. C'est-à-dire que les langues des deux cultures viennent se nourrir l'une l'autre, parfois, et permettent parfois d'inventer des mots qui ont une poésie assez extraordinaire. Sauf que moi, j'ai des petits-enfants bilingues. Et alors ça, c'est juste une anecdote, mais j'ai pu rencontrer des adultes qui travaillent ça. Et parfois, il y a une liberté qui est assez extraordinaire. Et c'est une question que je me pose quand... la différence entre des gens qui sont vraiment excellemment bilingues, enfin, c'est extraordinaire, et ceux qui ont des parents de culture différente.
Alors, je pense qu'il y a, enfin, je ne pourrais répondre que pour moi, parce que c'est vraiment une question tellement, tellement vaste. Je dirais que ce qui a joué pour moi, c'est un ancrage affectif absolument incroyable. Ce que je pratique au moins deux langues, c'est-à-dire c'est l'allemand de la traduction et l'anglais aussi, mais je traduis de l'allemand. Et c'est pas pour rien, parce qu'une partie de ma famille est allemande. Donc il y a un ancrage affectif, une résonance affective de cette langue qui est ça, tout à fait étonnante. Et je dirais que la poésie, je l'ai découverte en allemand. C'est une expérience qui est survenue comme ça. Et c'est par le biais de la poésie allemande que j'ai commencé à pouvoir lire de la poésie en français. Mais je dirais que je suis quand même un pur produit de l'éducation française. Et que l'éducation française, je dirais, est admirable par beaucoup de côtés, mais elle est aussi extrêmement contraignante et inhibante, et que donc, je dirais qu'on doit désapprendre un certain nombre de choses. Mais à la limite, je veux dire, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que il n'y a pas de situation idéale. Il y a à chaque fois un donné, une situation donnée, et donc à partir de là, on doit créer des outils à partir de ce qu'on a. Donc voilà, alors peut-être qu'effectivement, ça rend le fait d'avoir une double culture, ça rend plus perméable à certaines choses, mais on doit faire avec les outils qui nous ont été inculqués.
Emma, qu'est-ce qui vous a conduit dans le français, par exemple ?
J'ai appris à l'école, je n'ai pas ce goût de parenté, mais quand même, je suis arrivée à lire de la poésie de langue anglaise après avoir lu de la poésie française.
C'est assez amusant.
Oui. Et on revoit la poésie de sa propre culture, pas vraiment en tant qu'étranger, mais c'est un peu comme ça. On fait la comparaison entre la scène poétique française et la scène britannique, plutôt que vraiment d'être dedans, je crois.
Okay.
Moi, je suis néerlandaise, j'ai grandi en France, donc voilà, j'ai cette double culture en moi, mais c'est vrai que bon, chez nous, avec mon compagnon qui est français, on parle une espèce de savire plein de mots avancés, mais qui nous est propre vraiment à nous, et jamais il me viendrait à l'esprit d'oser faire ça en traduction, parce que bon, je ne suis pas poète, on me le reprocherait. Non, mais non, c'est vrai que c'est quelque... quand on traduit pour un public qui n'a pas le même bagage que nous, donc on peut pas se permettre ce genre de choses. Enfin, peut-être ici, de temps en temps, ça et là, mais... et en fonction du poète qu'on traduit, mais je ne peux pas aller inventer effectivement des mots composés pour le besoin de ma traduction. Alors que les Néerlandais les inventent effectivement comme allemand, mais comme ça, c'est terrible.
Mais oui. Voilà. Mais parfois, ça me rend très envieuse.
Il y a une histoire familiale derrière, mais je suis aussi un produit de l'école française. Mais j'ai appris l'allemand très petite. Ouais.